et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous allons parler à présent d'une maladie inconnue qui sévit dans la zone des santé de Panzi, voilà, dans la province du Kwango. Et alors, quels sont les signes de cette maladie? Voilà, comment évolue les recherches, quelles sont les précautions à prendre par rapport à cela? On en parle dans les minutes qui suivent avec Dr Anissé Kipasa, expert en santé publique. Et on aura, si tout va bien aussi, le professeur Steve Aouka, qui est épidémiologiste. Des questions et préoccupations, composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiokapi.net. Dieudonné Nyangasa. À la mise en onde, Tati Mapoukou réalise et coordonne cette émission au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Message du PDD RCS au Nord Kivu, rétablissement de la paix dans l'est de la RDC.
Chers auditeurs et auditrices, sachez que lors de son intervention du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a défini le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDD-RCS comme étant le levier crucial de la paix. Avant d'exprimer son engagement à poursuivre la mise en œuvre de ce programme, reconnu comme la clé de la stratégie nationale pour désarmer, démobiliser et réintégrer les combattants en leur offrant des perspectives économiques viables et durables tout en stabilisant les zones touchées par le conflit. À la suite du chef de l'État, le PDD-RCS appelle la population à s'approprier ce programme. Une invitation est aussi lancée en direction des jeunes de s'inscrire dans ce programme en vue d'intégrer la vie civile et bénéficier de l'accompagnement du processus de réintégration à travers le projet intégrateur.
Ceci est un message de la coordination provinciale du PDD-RCS au Nord Kivu avec l'appui de ce partenaire, Star Est, Monisco et les autres projets de réinsertion communautaire des ex-combattants, jeunes à risque et des femmes vulnérables. Pour plus d'amples informations, vous pouvez appeler au numéro 081 088 0000. Le PDD RCS est pour la communauté, par la communauté, dans la communauté et avec la communauté.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous allons parler à présent d'une maladie inconnue qui sévit dans la zone de santé de Panzi, dans la province du Kwango, et c'est là depuis la fin du mois d'octobre dernier. On parle déjà plus de 400 cas, voilà, enregistrés, dont une centaine de décès, d'après la société civile locale. Pour en savoir plus, nous avons en ligne Docteur Anissé Kipasa, expert en santé publique. Docteur Anissé, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bien, quelle est la caractéristique ou quelles sont les caractéristiques de cette maladie inconnue qui sévit dans la zone des santé des Panzi dans le Kwango?
Ah oui, Jody, depuis le 24 octobre de cette année, du 24 au 5 décembre, à ce jour, il y a une maladie inconnue qui sévit dans la zone de santé des Panzi. Et là, comme vous l'avez dit, c'est une maladie inconnue. Comme vous avez annoncé là, il y aura un virologue, le professeur Aouka, qui travaille beaucoup avec le prof Mouyembe. C'est une très bonne chose. Mais la caractéristique, la cause exacte de la maladie n'est pas connue. Mais seulement, on parle d'une maladie qui ressemble un peu à la grippe. Et puisqu'il ressemble à la grippe, il y a la forte fièvre, il y a des maux de tête, il y a la toux, il y a l'écoulement nasal. Et ils ont pensé que il y a, en dehors de cela, maux de tête, forte fièvre. D'ailleurs, dans la plupart des maladies virales, il y a des fortes fièvres. Il y a la toux et les nez coulent. Il y a le rhume. Certainement, il y a aussi les éternuements, comme ça se passe dans la grippe. Voilà un peu sommairement les premiers éléments qui nous donnent un tout petit peu la symptomatologie, la clinique de cette maladie inconnue dans le Panzi.
Bien, donc, mais les symptômes sont, ressemblent bien à la grippe. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de grippe sévère?
On se réserve de dire cela. On ne peut pas anticiper, je dis. Les experts de l'OMS, et certainement l'INRB est sur le terrain, il n'y a pas anticipé. Mais ce qu'il y a, ce qui est important, c'est que ça ressemble à la grippe. Mais quand on regarde par rapport au taux de létalité, vous avez parlé le nombre de décès, il y a à peu près plus de 400 et plus cas qu'on a inventorié jusqu'à présent, et il y a environ 70, je vois les bulletins épidémiologiques d'aujourd'hui, ils ont parlé entre 70 et 143 cas de décès. Et dans les 400, des plus de 400 là, c'est 40% sont surtout des jeunes, des enfants de moins de 5 ans. Et un autre facteur, comme certainement le professeur Aouk a élaboré là-dessus, c'est les phénomènes que nous appelons la comorbidité, c'est-à-dire les maladies qui existaient déjà, qui deviennent des facteurs aggravants de cette épidémie, si on peut le dire. Là-dedans, on a pensé à la malnutrition protéino-calorique. Il y a une forte quand on regarde le seuil de la malnutrition dans la zone de santé de Panzi, ce seuil de la malnutrition sur le plan communautaire est élevé. Il y a la malnutrition, il y a le paludisme même, la malaria qui est aussi citée. Donc, il serait pas prudent d'anticiper que c'est une forme grave de grippe. De toute façon, si vous parlez de la grippe, nous parlerons aussi, pourquoi pas de COVID, parce que la voie d'entrée, quand je regarde, il y a le rhume. Peut-être, le professeur Aouk et les autres nous le diront, peut-être que l'entrée, c'est par la voie aéroportée, par la voie aérienne, peut-être par les narines, comme ça se fait avec la grippe, et même par les yeux. Mais jusqu'à présent, on n'a pas dit c'est une maladie virale ou c'est une maladie bactérienne. Nous le saurons, les experts sont sur le terrain, il faut leur faire confiance. Et l'INRB, l'OMS, et ils sont déjà sur le terrain, les ministères de la Santé. D'ailleurs, celui qui a annoncé ça, c'était son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, le docteur Kamba. Je pense, il n'y a pas à anticiper, mais au moins, nous voyons les symptômes. Nous voyons les symptômes et ça nous permet d'orienter la conduite à tenir jusqu'à présent.
Voilà, et il semble que cette maladie se déporte dans d'autres zones de santé. On parle de la zone de santé de Kitenda, de Kazembe et Mwaningita, où on dénombre aussi quelques cas déjà.
Je dis, chaque fois qu'on a un phénomène de santé insolite dans un endroit, en épidémiologie, nous parlons de la proximité de risque. Quand il y a eu, par exemple, la polio dans une des zones voisines de Kikwit, ou bien la rage, l'épidémie de rage à Mosango, immédiatement, les épidémiologistes de terrain que nous avons à Kikwit, que ce soit à Kitenda, ils sont en alerte maximale. Parce que en épidémiologie, il y a la proximité de risque. Mais quand nous regardons, je dis, c'est vrai, l'OMS a parlé d'un grand handicap qui est dans les infrastructures routières. Mais je dirais aussi, Kinshasa doit faire attention parce que s'il sort 2 jours pour quitter Panzi et sortir sur la nationale, ou même 3 jours, le reste c'est 6 heures de route ou 10 heures à Kinshasa. Donc, il y a l'alerte maximale, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici à Kikwit, où les gens de Panzi passent par ici. Et effectivement, on a parlé de la zone de Kitenda, les autres que tu as citées là, on a identifié quelques cas. Mais pour l'instant, l'équipe de l'OMS, l'équipe de l'INRB, qui sont destinées à la surveillance épidémiologique active, passive, la surveillance épidémiologique active, ils sont en train de faire des recherches actives de cas, retrouver les cas. C'est ça qui sera notre salut, parce que dès qu'on prend en charge ces cas, ça va empêcher la circulation de l'agent causal, que ce soit le virus, que ce soit la bactérie.
Mais est-ce qu'on a déjà une idée sur la période de l'incubation de la maladie et après combien de temps les personnes décèdent?
Si nous disons que ça ressemble à la grippe, nous prenons les temps d'incubation de la grippe, nous prenons les temps, tous ces éléments, les équipes sur le terrain vont aller et étudier, identifier ça. Je suis sûr que dans les heures qui suivent, nous aurons beaucoup plus d'informations. Mais comme vous l'avez dit, vous l'avez annoncé, je dis le plus important, chaque fois qu'on est devant un phénomène insolite de santé, dans les cas des maladies émergentes ou réémergentes, que ce soit le COVID, que ce soit l'Ebola, que ce soit les Mpox, le plus important maintenant, pendant que les équipes des spécialistes, des experts sont sur le terrain, nous, en tant qu'experts de santé publique et communicateurs, et vous, notre devoir, c'est d'appliquer ce que les mesures que l'OMS a utilisées dans ce qu'on appelle l'infodémie. L'infodémie, c'est toutes ces informations-là qui circulent souvent autour des rumeurs qui circulent autour d'une épidémie. Et c'est ça qui aggrave l'aspect, l'ampleur de la maladie. Donc, pour l'instant, en même temps que les experts travaillent, ils sont vraiment sur le terrain, les épidémiologistes, les virologues et tous les autres. Nous, notre devoir, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire à propos de l'infodémie, de cette info. L'OMS a déjà parlé de ça. Et nous, la gestion des rumeurs qui aggrave l'ampleur de la maladie dans une contrée.
Voilà, j'imagine que sur place là-bas, dans la zone des santé de Panzi, il y a des rumeurs qui circulent et sûrement vous êtes déjà au courant de cela. Et qu'est-ce que les gens racontent? Qu'est-ce qui se raconte, docteur, autour de cette maladie?
Absolument, je dis. Chaque fois que la population trouve un phénomène de santé insolite, il y a ce que nous appelons en termes sociaux la résilience de la population. Puisqu'ils ne connaissent rien de cette maladie, il y a des gens avec des rumeurs qui interprètent. Et ces rumeurs-là conditionnent, et d'ailleurs l'OMS a parlé en dessous là, que c'est la communication pour le changement des comportements. Il y a les guérisseurs, il y a tout le monde qui dit cette maladie, ça peut être un envoûtement. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la société qui a envoûté les gens. Cette maladie peut être parce que, et surtout qu'il y a l'aspect de la malnutrition. Qui sait si les gens ne se disent pas non? Est-ce que ces enfants-là, c'est pas ce qu'on appelle les sangas ou bien d'autres choses? Et en fonction de cela, ils vont aller chez les guérisseurs, chez les tradis praticiens, chez des charlatans pour prendre des comportements à risque. Alors l'OMS s'attelle avec le plan de gestion concernant l'infodémie à dire aux gens, la rumeur publique vous a dit qu'il faut pas aller à l'hôpital. Cette maladie se soigne à la maison. Cette maladie se soigne avec la braise. Cette maladie se soigne avec telle plante. Cette maladie dans la zone des Panzi. On nous a dit que c'est tel. L'enfant de tel, on lui a donné de l'huile de palme. On lui a fait, et encore, on a parlé aussi de la rougeole. La rougeole est importante dans la zone des Panzi. Alors, déjà avec la rougeole, je dis, les gens se disent, non, ce sont des envoûtements. Ils prennent des lavements avec du thé, avec beaucoup d'autres choses qui, à la fin, deviennent nocifs pour le contrôle, qui deviennent difficiles pour le contrôle de la maladie dans la société.
Bien, donc on doit faire attention à toutes ces rumeurs qui peuvent nous désorienter. Donc en attendant, les spécialistes sont sur place pour étudier la maladie et voilà, déterminer ce qu'il en est au juste. Des questions et préoccupations, appelez-nous déjà au 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Maladie inconnue dans la zone des santé de Panzi, voilà, quelles sont les précautions à prendre? Voilà, comme la maladie n'est pas encore déterminée, elle n'est pas bien connue, elle commence à se répandre déjà. Docteur Anissé, comment la population, quelle attitude adopter face à une maladie inconnue?
Je dis, comme nous l'avons toujours dit, nous l'avons fait plusieurs fois avec la radio Okapi, je prends mes 5 doigts. La première des choses, je vois les experts sont sur le terrain, il y a des traitements sur le plan symptomatologique. Mais ce que nous devons faire pour l'instant, pour communiquer à la population, je prends mes 5 doigts. Le premier, c'est pas de panique. Il faut, d'ailleurs, j'étais content, l'administrateur du territoire de Kasongo-Lunda était parmi les premiers à faire la sensibilisation. C'est vraiment un responsable responsable. Je dis, l'administrateur a dit, ils sont dans la sensibilisation. La première des choses, pas de panique. Pas de panique et suivez scrupuleusement ce que les autorités médicales, les autorités politico-administratives leur donnent comme information. Évitez les rumeurs, n'écoutez pas les rumeurs, s'il vous plaît. Trois, en dehors des rumeurs, j'ai dit, puisque c'est une maladie contagieuse, et utiliser les mesures barrières. Et là, dans les mesures barrières, chaque fois qu'il y aura un problème, ou même quand ils sortent, nous connaissons les mesures barrières, que les gens, la première des choses, lavage de mains, le savon, avec du savon ou de cendre. Et chaque fois qu'ils sortent dans des lieux publics, que ce soit église, école, qu'ils mettent l'accent sur l'hygiène. Donc, quatrième, l'hygiène. Et quand il y a des décès, qu'on évite la manipulation des décès. Vous savez, nous sommes Africains, nous sommes Congolais. La meilleure façon de manifester son amour pour quelqu'un qui est décédé, c'est de tomber sur place sur lui et les commencer à l'embrasser. Pas de manipulation des cadavres. Oui. Ceux qui sont décédés, qu'on fasse un enterrement digne et sécurisé, c'est-à-dire les équipes d'hygiène qui sont allées là-bas, ils vont s'assurer de l'enterrement digne et sécurisé, ce qui n'est pas facile parce que la population a ses raisons.
Oui.
Donc, et chaque fois qu'il y a un cas, qu'on l'amène à l'hôpital, mais qu'il y ait une très bonne gestion des rumeurs, je crois que d'ici quelques temps, l'équipe de l'INRB, de l'OMS, et disons les ministères de la santé, parce que l'INRB c'est les ministères de la santé, je crois que nous aurons beaucoup plus de précisions pour cette maladie et que les gens dans les méthodes, les gestes barrières, comme c'est une maladie aéroportée, que les gens mettent de masques, que ceux qui vont soigner, jusque là nous n'avons pas reçu de nouvelles sur l'infection nosocomiale, c'est-à-dire l'infection qui se prend à l'hôpital avec le personnel de santé. Là, ce serait encore beaucoup plus dangereux. Mais ce que nous avons, la maladie est dans la communauté et les gens qui sont dans une promiscuité, qui s'embrassent, qui se saluent avec les mains comme ça et ils lavent pas les mains avec le savon, c'est un aspect, ce sont des aspects très dangereux qui peuvent facilement répandre la maladie.
Bien, voilà, ce sont là les mesures à prendre mesures à prendre, pas de panique. Voilà, pas de panique, éviter les rumeurs, respect des mesures barrières, l'hygiène, pas de manipulation des cadavres et l'usage des masques. Voilà, parce que vous avez dit ça ressemble un peu à la grippe ou à la Covid.
Oui, les premières appréciations, ils parlent beaucoup plus de la grippe. Ils ont parlé des infections respiratoires aiguës, notamment une pneumonie aiguë. Mais que ce soit le Covid, s'ils pensent, je ne dis pas que c'est le Covid, mais ça ressemble à la grippe. Donc, puisque ça ressemble à la grippe, probablement c'est une maladie virale. Et nous connaissons les modes de transmission de la grippe avec les fluges, les gouttelettes quand quelqu'un parle ou quelqu'un éternue. Donc, il faut éviter la proximité. Rappelez-vous, dans la grippe, nous avons parlé de la distanciation. Il faut pas se mettre devant quelqu'un, vous êtes en train de parler. Mettez-vous à côté, parce que si ça ressemble à la grippe, il y aura la transmission aérienne aéroportée par les gouttelettes quand nous éternuons, quand nous parlons. Donc, faisons d'abord ça, je crois, ça nous permettra d'éviter que la maladie traverse, que ça aille à Kitenda, je ne sais pas moi, à Mwelalemba ou dans les autres Mwangita, les autres zones là-bas. Donc, qu'on applique d'abord ce que nous venons de dire maintenant, c'est que les spécialistes qui sont sur le terrain vont leur dire. Et même à l'hôpital, que le personnel soignant soit, parce que ce sont les premiers qui sont en contact avec la, dans la chaîne de transmission, le personnel soignant doit être protégé, très bien protégé, comme ça nous ferons œuvre utile.
Bien, on va accueillir un premier auditeur, Thomas, depuis la ville de Bounia. Bonjour Thomas, et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Rebonjour, monsieur Tati, et une fois de plus, à l'invité, mais aussi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je passe face à cette maladie qui est dorénavant connue là. L'invité a donné en tout cas les 5 stratégies ou les 5 moyens qu'on doit appliquer à ce pareil moment qui est du tout exceptionnel. Je passe. Nous, en tant que population, nous partageons en tout cas cette affaire-là avec nos compatriotes de ce côté du pays, parce qu'il faut face maintenant à un sérieux problème. Pourtant, nous approchons la fête ici. Vous voyez que c'est un coup dur pour cette population-là. Mais, quand cela ne tienne, je pense ce que l'invité venait de dire, nous devons mettre ça à pratique. Mais à part ce que l'invité venait à peine de dire ici, Keng ici est non loin de quoi de Kinshasa. Il y a toujours un principe qu'on ne cessera jamais de le dire, mieux vaut prévenir que guérir. Je ne sais pas à Kinshasa quelles sont les dispositions que les autorités ont eu à faire, à placer pour faire à ce que cette maladie ne puisse pas toucher la Kinshasa également, parce que la province où la maladie est là pour le moment, c'est non loin de Kinshasa. Je ne sais pas si, quelles sont les mesures, quelles sont les pratiques, quelles sont les stratégies que le gouvernement de Kinshasa, par exemple, a eu à faire pour éviter la contamination. Je ne sais pas, on est là, on se focalise de l'autre côté, mais également, il y a un principe de prévention. Qu'est-ce qui est fait pour l'État? Pour la ville de province de Kinshasa, parce que c'est non loin de Kinshasa, je ne sais pas quels sont les mécanismes, quelles sont les stratégies que le gouvernement provincial a eu à mettre pour éradiquer ou pour empêcher que cette maladie puisse survenir du côté de la capitale.
Merci Thomas. Voilà, donc vous dites que Kwango n'est pas très loin de Kinshasa. Avec le mouvement des personnes, est-ce que la maladie ne sera pas déportée, etc. Docteur Anissé Kipasa.
Merci Thomas de Bounia. Je voudrais l'apaiser. Le gouvernement a déjà fait le premier pas, parce que la première des choses, le gouvernement, je parle que ce soit au niveau central ou au niveau provincial. Je peux vous assurer Thomas, vous avez parlé de Kenge, le chef-lieu de la province du Congo, c'est à Kenge. Soyez-en sûrs, le gouverneur à Kenge, les chefs de division provinciale de la santé, les MIP, le médecin inspecteur, l'équipe des experts de la province du Kwango, appuyée maintenant par l'équipe qui vient du niveau national. Quand le ministre l'a annoncé, soyez sûr que immédiatement le ton était lancé pour aller appuyer l'équipe qui était déjà à pied d'œuvre. Si le chef de division et l'équipe des épidémiologistes de Kenge n'étaient pas à pied d'œuvre, on n'allait pas avoir l'information. Soyez-en sûr, Kenge est déjà en alerte maximale et je suis sûr que chaque jour, il y a des réunions de surveillance épidémiologique qui se tiennent pour suivre l'évolution sur le terrain. Et les gouvernements centrales, au niveau de Kinshasa, s'il a dépêché, que ce soit l'équipe de l'INERBA et les autres équipes, c'est qu'ils ont déjà pris des ils travaillent, ils prennent des précautions pour ça. Ce que nous avons voulu avec Radio Okapi, c'est obtenir la participation communautaire surtout, la compliance de la population. Parce que quand il y a un problème d'épidémie dans un milieu, pour que ça arrive à Kinshasa, il faudra que il y a des gens qui sont à Kitenda, qui sont à Panzi, qui, pris de panique, ils vont chercher à quitter, à s'éloigner. Et même, pas seulement chez nous, il y a aussi l'Angola, il y a Panzi, et dans la zone frontalière. Sois sûr qu'en Angola aussi, l'alerte est déjà donnée pour circonscrire la maladie et empêcher que cela aille à Kinshasa et même à Bounia. Soyez calme, Thomas. Nos experts, que ce soit de l'INRB, de l'OMS, du ministère de la Santé, sont très, très outillés. Je crois même, parmi les pays au monde où il y a, je vois même la dernière école là du professeur Mouyembe sur l'épidémiologie des terrains et l'école de santé publique. Soyez sûr que le Congo a une grande expérience dans la gestion des situations d'épidémie comme celle-là. Ayez vos apaisements. Vous aurez les festivités de Noël calmes, Thomas.
Bien, on va accueillir Jeannot depuis Kolwezi. Bonjour Jeannot, et qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette maladie inconnue?
Bonjour, merci pour la deuxième fois de me joindre à ce débat radiophonique. J'aimerais poser quelques questions tout en réfléchissant. D'abord, avant qu'on parle de cette maladie inconnue, tout. Où en est-on avec Mpox? Où en est-on? Parce que ça fait beaucoup de bruit dans le monde et c'est terminé, c'est fini comme un bonbon dans la bouche. Là. On n'en parle plus. Déjà qu'on a encore le séquel d'Mpox, voilà qu'on parle d'une maladie dont on ne connaît pas le nom. Je pense que quand on dit c'est inconnu, c'est le nom qui n'est pas connu. Mais c'est connu dans le sens où la population sent la présence d'une maladie ou d'un ça ne va pas. Et se dit c'est certainement une maladie. C'est le nom, je suppose, qui n'est pas encore connu, ou des experts en médecine qui n'ont pas encore trouvé un nom à cette maladie. Voilà pourquoi on dit c'est inconnu. Parce que la présence de cette maladie montre déjà que c'est quelque chose de connu, c'est une maladie, on appelle ça déjà maladie. Peut-être c'est le nom qui n'est pas encore connu. J'aimerais ici poser ma première question, je poserai aussi la deuxième. La première question, non, j'ai posé la première, c'est où en est-on avec Mpox. La deuxième, c'est comment font-ils? Parce que cette maladie n'a pas encore de nom. Comment font-ils pour trouver des noms aux maladies? Parce que là, c'est une maladie incognito, en attendant que les experts lui trouvent un nom. Comment font-ils pour trouver que ça s'appelle Mpox, ça s'appelle Ebola, ça s'appelle Covid? Comment ils font? Et moi, je me dis, la troisième question que je pose, qu'est-ce qui fait que c'est seulement chez nous où il y a de ce genre de maladies? Hein? De maladies un peu honteuses, là, c'est seulement en Afrique, précisément au Congo. J'apprendrai que le sida, c'était au Congo, et Mpox au Congo, encore cette maladie non baptisée, c'est encore au Congo. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Qu'est-ce que cache cet arbre-là? Il y a quoi derrière au juste? Parce qu'on est en train, plus il y a des maladies inconnues, tout comme celle-ci, plus vous boostez nos curiosités, notre curiosité, cher invité. C'est un peu ça. Merci beaucoup.
Bien, merci. Jonathan, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Depuis l'université Shalom de Bounia, c'est moi, et j'ai suivi les interventions de l'invité. Mais vous savez, pour une question de la santé publique, cher journaliste et puis cher invité, on ne doit pas trop dire avec, parce que lui-même, il a soulevé les taux de la morbidité et voire même de la mortalité par rapport à cette maladie. C'est-à-dire, si l'équipe déjà est sur le terrain, comme il le dit, OMS et INRB, mais ils doivent multiplier les actions sur le terrain afin de juguler justement en cette chaîne et puis limiter, t'assoiper la morbidité ainsi que la mortalité. Vous savez, souvent les grandes épidémies commencent toujours comme ça. Ça commence trop petit, comme une endémie, et puis ça va prendre la ligne maintenant épidémiologique. Parce que déjà, quand vous dites que ça commence dans cette région, là, on peut dire déjà que c'est d'abord une endémie. Et petit à petit, lorsque ça va se répandre, vous allez vous rendre compte que les souches vont se répandre dans toute la RDC, et voire même au-delà de la RDC. Et c'est là où nous allons parler de l'épidémie. Alors, donc, c'est-à-dire, si l'équipe est déjà sur le terrain, l'équipe doit multiplier les actions, et justement, pour arriver à, premièrement, d'abord, diagnostiquer cette maladie. Vous savez, dans la médecine, l'élément qui essaie d'indiquer, l'élément indicateur pour la détermination d'une maladie, ça s'appelle le diagnostic. Alors, on ne peut pas seulement diagnostiquer une maladie sur le plan clinique. Non, comme le docteur a dit. Donc, cliniquement, la maladie présente certains signes et symptômes. Alors, on ne doit pas se laisser seulement fier sur l'aspect clinique de la maladie, mais on doit aller plus loin de cet aspect. Il y a le diagnostic qu'on appelle le diagnostic de laboratoire. C'est-à-dire le labo. Si le clinique n'a pas donné le résultat escompté, donc le labo peut maintenant venir justement donner avec exactitude la maladie. Donc, on saura si c'est tel virus ou telle bactérie ou tel autre micro-organisme qui soit à la hauteur ou à la base de cette maladie. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu ça, ma petite contribution par rapport.
Bien, merci Jonathan de Bounia. Nous parlons de la maladie inconnue qui sévit dans la zone de santé. Dans la zone de santé dans les Kwango, voilà, et cette maladie dans la zone de santé de Panzi, voilà, et la maladie se déporte aussi dans d'autres zones de santé comme Akitenda, Kazembe, Mwaningita et autres. Madame Claudia, vous êtes à Kolwezi, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette maladie inconnue?
Bonjour monsieur Jody, bonjour à votre équipe ainsi qu'à docteur Anissé. Oui, je voulais savoir quel est le taux d'incidence et aussi comment s'est fait la prise en charge. Docteur Anissé, vous savez, c'est vraiment impossible de ne pas paniquer face à une maladie inconnue. Vous pouvez être calme si vous êtes à distance, mais si vous êtes dans l'endroit où la maladie sévit, c'est vraiment impossible d'être calme. C'est vraiment impossible de ne pas paniquer. C'est un peu ce que j'ai comme contribution. Merci.
Bien, merci. Docteur Anissé qui passe.
Je vais justement, je commence par Claudia. Claudia, merci infiniment. J'étais en train d'ailleurs de chercher à faire des calculs là-dessus. Dans les cas d'une épidémie, nous parlons pas de taux d'incidence, nous parlons des taux d'attaque. Mais je pourrais vous le donner, et comme les bulletins épidémiologiques nous les donnent chaque jour, je pourrais vous le donner un peu plus tard. Mais à propos de ce que nous demandons dans les 5 doigts pour la prévention, d'être pas de panique. Vous savez, Claudia, l'expérience que nous avons, quand les gens sont devant une situation, c'est ce qu'on appelle la résilience positive et négative. Quand quelqu'un est en train de se noyer, il peut même aller toucher sur un serpent en pensant que il va être sauvé. Ça signifie quoi? Si vous laissez les gens dans la panique, j'ai eu les cas à Ebola, les gens ont mangé la braise, les gens ont pris de l'huile de palme, les gens ont pris toutes sortes de... Et d'ailleurs, l'OMS revient sur ça, la communication pour le changement de comportement, la communication pour éviter les comportements à risque. C'est-à-dire, vous devez demander, Claudia, à quelqu'un, ne pas paniquer. Quand vous agissez sous le fait de la peur, de la panique, vous prenez parfois des attitudes qui sont plus dangereuses que salvatrices. Je reviens sur Jonathan, qui dit, c'est une question de santé publique, il faut pas traîner. Effectivement, Jonathan, on n'a pas traîné. Sur le terrain, l'équipe de l'INRB n'est pas partie se promener. L'équipe de l'INRB a déjà pris les échantillons pour le laboratoire. Le diagnostic clinique, c'est simplement une orientation. Nous avons une maladie qui se présente de cette façon. Peut-être, on pense déjà à y a quelqu'un qui a anticipé en disant, est-ce que c'est pas une grippe? Mais il a la clinique ressemble à telle maladie. Et en plus de ça, les phénomènes de comorbidité, ces cliniques, nous avons vu que la plupart des gens qui sont décédés, bon nombre de gens qui sont décédés, il y avait une malnutrition sévère de ce côté-là. Jonathan, on n'a rien laissé au hasard. L'équipe est déjà sur le terrain, rassurez-vous, et ce sont des experts. L'INRB, vous connaissez la compétence de l'INRB, et on a déjà pris des échantillons. Dans les heures qui suivent, ou les jours qui suivent, vous aurez l'information sur la précision sur ça. Jeannot à Kolwezi, vous nous parlons d'une maladie inconnue. Vous me demandez l'état actuel sur la gestion du Mpox. Oui, le Mpox, je peux vous le dire, sans embâche, qu'il est sous contrôle. Je vous ai dit que le Congo actuellement, en ce qui concerne la capacité de médecins, des épidémiologistes, des équipes du ministère de la Santé, en ce qui concerne la riposte, je crois que nous sommes parmi les meilleurs. Je l'ai dit aussi à Jonathan. Le Congo actuellement, le ministère de la Santé publique, partout, j'ai dit, le CD de l'équipe de Kenge était déjà, le simple fait de donner l'alerte, ils ont déjà commencé à préparer la riposte. Le ministère a déjà préparé. Car on ne peut pas demander mieux. Nous faisons la politique de nos moyens, mais dans ce domaine-là, rassurez-vous, le Congo est très bien et parmi les pays les plus expérimentés. Alors, Jeannot, il faut pas parler de la maladie honteuse. On n'attrape pas la maladie inconnue ici dans les hôtels ou qu'est-ce que vous appelez maladie honteuse. Je voudrais vous dire, ne soyez pas défaitistes. Dans les autres pays, il y a aussi des problèmes. Quand vous allez au Brésil, il y a des maladies que nous ne trouvons pas ici avec les forêts équatoriales de ce côté-là. Même en Europe aujourd'hui, même aux États-Unis, vous savez, à un certain moment, le jour où nous avons eu Ebola ici, il y a des experts qui étaient aux États-Unis qui disaient jamais ça n'arriverait pas. Mais on a eu des cas d'Ebola aux États-Unis. Il y a des infirmiers qui sont décédés de ça. Ce n'est pas un sort qu'on a jeté aux Congolais, mon cher Jeannot. Jeannot, tu es chrétien. Sois calme. Le maladie, il y en a, si vous montrez la cartographie des maladies, il y en a partout dans le monde, il y a des maladies. Il y a des problèmes de santé. Mais ici, oui, l'expérience congolaise est vraiment à féliciter. Soyez calme. Bientôt, vous aurez les informations beaucoup plus précises. Et d'ailleurs, l'équipe de CD de la division provinciale de Kenge est appuyée par l'OMS et l'INRB. Ils sont en train de travailler sur le terrain.
Voilà, Jeannot veut savoir aussi comment vous arrivez à déterminer les noms des différentes maladies. Hein. Comment on arrive à baptiser c'est telle maladie ou telle autre?
Je dis, Jeannot, restez calme, je dis ceci. À partir du moment où nous avons le diagnostic des laboratoires, nous découvrons quel est les virus ou l'agent causal, et de là vient le nom de la maladie. Dès qu'on trouve, si c'est une maladie qui n'a jamais existé, alors en ce moment-là, on trouvera quel nom lui donner. Jeannot, je te donne l'exemple. La maladie hémorragique à virus d'Ebola. Quand l'équipe du professeur Mouyembe avec le professeur Krouboua, je me rappelle, envoyé par son excellence, paix à son âme, Ngouété, quand il les avait envoyés à Yamboko, avant, c'était une maladie inconnue, ils ont voulu donner le nom de Yamboko, mais pour éviter la stigmatisation, on a donné le nom de la fièvre hémorragique virale de cette rivière-là, la rivière Ebola. Mais, nonobstant, sur le plan scientifique, ils savent que c'est un virus de tel ordre, de telle classe, de telle famille, de tel type. Ils connaissent. Attendons, le prof, tout à l'heure, là, je crois, le virologue qui va intervenir, il va nous donner encore beaucoup plus de, le prof Aouka, il va nous donner encore beaucoup plus d'éléments sur comment nous arrivons à définir les noms de la maladie, là. Gardez votre mal en patience. Je pense pas que vous aimeriez qu'on dise un jour la maladie de Jeannot.
Pas du tout. Bon, le prof Aouka, jusque-là, n'est pas toujours joignable. On tente toujours de le joindre, mais on n'arrive pas à l'avoir. Peut-être qu'il est dans une réunion. Entre-temps, nous allons accueillir Maître Christophe de Kolwezi. Maître, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette maladie inconnue qui sévit dans la zone de santé de Panzi, dans la province du Kwango? Maître Christophe, vous êtes là?
Merci, Monsieur Jody. Je suis en ligne, oui, Monsieur Jody.
On vous écoute.
Je suis en ligne, franchement. Les choses compliquent un peu, mais oui. Je voulais quand même poser la question à l'invité. On parle en termes de la maladie inconnue. Bon. Je ne sais pas. Il faut
si vous avez une radio à côté, merci de baisser les volumes. Maître Christophe, merci de vous éloigner de la radio ou bien vous pouvez réduire le volume parce qu'on a un retour ici, à l'antenne.
Merci, c'est compris. Oui, okay. Je disais inconnu, il faut combien de temps pour que finalement la maladie soit connue? Ça c'est de un. De deux... Pourquoi parler en termes de maladie inconnue alors que c'est connu que c'est une maladie? L'inconnu, en fait, le docteur, quel est le sens qu'il accorde à l'expression inconnue? Je ne sais pas, selon leur diagnostic, c'est une pandémie, c'est une épidémie ou bien qu'en est-il de l'état de l'impox à ce jour? C'est fini? Ça continue? la prévention continue ou bien il y a une maîtrise médicale comme ils le disent. Merci beaucoup.
Merci. Docteur Anissé, à vous la parole.
Christophe, merci. Ça me permettra aussi de répondre, je crois que c'était Jeannot qui avait posé presque une question comme ça, ou Claudia. Vous dites en termes de maladie inconnue. Christophe, j'ai dit tout à l'heure là à notre ami Jonathan de Bounia, prenez votre mal en patience. La première des choses quand on arrive sur le terrain devant un phénomène de santé, un problème de santé, on regarde, on décrit la maladie. Après avoir décrit la maladie, on prélève les échantillons, on va faire le diagnostic de laboratoire. On identifie l'agent causal et on colle le nom à cette maladie. On dit cliniquement, ça ressemble à telle maladie. Et quand nous sommes allés au laboratoire, on a trouvé tel agent causal. Et quand vous parlez de quel sens nous accordons à l'inconnu, à la maladie inconnue, on n'a pas encore identifié l'agent causal, mais les signes cliniques ressemblent à telle maladie. Nous sommes d'ailleurs, Christophe, même dans la pratique courante, quand le médecin vous prend, vous examine, il y a le diagnostic, il y a l'hypothèse diagnostique. Il oriente, il dit par rapport à tel symptôme, ça peut être que telle maladie, et il prend un nombre de maladies pour faire le diagnostic différentiel. Et ensuite, il demande l'examen de laboratoire pour confirmer ce qu'il pense. Prenez votre mal en patience. Ce n'est pas dit que on n'arrivera pas. Quand vous parlez des pandémies et épidémies, pandémie, c'est une sorte d'épidémie qui va au-delà de plus de deux continents ou d'un continent. Regardez, le Covid, c'était pas seulement en Afrique. Covid, il y en avait en Europe, il y en avait en Asie. Et c'est pourquoi on parle de pandémie. Ça va. L'ampleur de la pandémie est beaucoup plus grande que l'ampleur de l'épidémie. Et je voulais dire ça à quelqu'un qui avait posé la question là-bas. Il faut vous attendez qu'il y ait combien de personnes pour trouver les noms. Est-ce que c'est une épidémie ou pas? Je voulais dire, je ne sais pas si c'était Claudia ou Jeannot.
C'est Maître Christophe.
Est-ce que vous savez que... Oui, il y a quelqu'un qui a posé une question semblable. J'ai dit ceci. Dans les endroits où une maladie, on fait la surveillance épidémiologique. Actuellement, notre pays est très bien organisé en ce qui concerne la surveillance épidémiologique. Avant qu'on ait notre épidémie d'Ebola, il y avait un relâchement. Mais aujourd'hui, chaque semaine pratiquement... Il y a dans toutes les zones de santé, il y a la réunion sur la surveillance épidémiologique. Et cela nous permet d'être prompt dans la riposte. Et même dans certaines zones, il suffit qu'une maladie n'a pas été vue dans cette zone-là pendant X temps ou pendant un certain moment, on détermine ce qu'on appelle les seuils épidémiques. Par exemple, un seul cas, je prends aujourd'hui, un seul cas d'Ebola dans notre aujourd'hui, je prends autour de Kikwit ou dans le Kwilu, un seul cas d'Ebola suffit, on envoie chez le ministre de la Santé ou le gouverneur pour déclarer qu'il y a épidémie. Il n'est pas dit que l'épidémie, c'est nécessairement quand vous aurez 100, 200, comme ça se passe là-bas. Et à Panzi, c'est une maladie, ça ressemble à telle maladie, on entend les diagnostics de laboratoire pour dire quel est le germe, quel est l'agent causal qu'on a identifié. Et on colle de façon précise à cette maladie un nom. Et on le dira. Mais pour l'instant, Christophe, ce n'est pas une pandémie. C'est seulement circonscrit chez nous, ici, dans le Kwango et dans la zone de santé de Panzi et les zones... par exemple, Kitenda, où on a dit qu'on a commencé à avoir des cas. Ce n'est pas une pandémie. Ça n'a pas encore traversé les frontières et même par rapport à la mortalité, c'est par rapport au taux d'attaque, nous ne sommes pas encore à cette définition-là de pandémie. Restez calme.
Bien. Docteur Anissé, mais pourquoi on est souvent surpris par toutes ces maladies inconnues? Est-ce que le système de surveillance, épidémiologique ne fonctionne plus bien?
Je dis, le système de surveillance épidémiologique au Congo fonctionne très bien. C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez reconnaître la sensibilité ou l'efficacité d'un système de surveillance épidémiologique? À peine on a un cas, tout de suite, le niveau central est informé que ici nous avons tel problème de santé. Notre système de surveillance épidémiologique est très sensible et spécifique. Immédiatement, dès qu'on a l'alerte, il y a l'enquête, l'investigation sur le terrain, et immédiatement, on informe les niveaux supérieurs. Croyez-moi, même dans le Panzi, Panzi, c'est une zone de santé. Mais si nous ouvrons Panzi, vous allez voir que ça a commencé peut-être dans une aire de santé, dans un petit coin. Et tout de suite, ce coin-là a informé le maître chef de zone avec son équipe, et eux, ils ont informé information sanitaire, le bureau d'information sanitaire au niveau de la province à Kenge, et immédiatement par rapport aux données, Kenge a informé l'INRB, a informé Kinshasa au ministère de la Santé, et le bureau, ou disons les directeurs chargés de la maladie est informé. Notre système, je dis qu'on vous trompe pas, actuellement le système de surveillance épidémiologique au Congo est l'un des meilleurs systèmes. Il y a une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité et surtout la promptitude aux ripostes. À peine qu'on a annoncé, les gens sur le terrain, ils sont à pied d'œuvre en train de travailler. Dans les heures, les jours qui suivent, nous aurons beaucoup plus d'informations sur ça.
Bien, Madame Claudia a parlé de la prise en charge des patients. Elle revient d'ailleurs, elle est de nouveau en ligne parce qu'elle a sûrement d'autres questions à vous poser. Madame Claudia, vous êtes là, on vous écoute.
Monsieur Jody, on m'a pas répondu sur la prise en charge. Et aussi, je voulais savoir, parmi les sujets à risque, je pense qu'on a parlé des enfants souffrant avec malnutrition protéino-calorique. Alors, je voulais savoir s'il y a un plan d'urgence qui a déjà été pris pour ces enfants-là souffrant de malnutrition. Et pour finir, docteur Anissé, vous venez de vanter notre système de santé, qu'il est vraiment l'un des meilleurs du monde. Mais quels sont les indicateurs? Parce que vu la façon dont la COVID a été gérée dans notre pays, en tout cas, moi, je ne prétends pas que c'est le cas. À moins que les rapports émanent de l'OMS, par exemple. Je dis, je vous remercie.
Merci beaucoup. Docteur Anissé.
Claudia, merci. C'est vraiment de très bonnes questions. La prise en charge devant ces problèmes, il y a d'abord sur le plan symptomatologique. On vous a dit tout à l'heure que la maladie ressemble à la grippe. OK, puisque ça ressemble à la grippe. La grippe, c'est ce que nous appelons les maladies de refroidissement. Ça signifie sur le terrain, on va recommander aux gens, il y a les rhumes, il y a la fièvre, le traitement symptomatologique d'abord. Et sur les habitudes des gens, on va leur demander de boissons chaudes. Parce que, et on va leur interdire, Claudia, c'est pourquoi j'ai dit la prise en charge est holistique. C'est pourquoi j'ai dit, si j'étais à, je suis sûr que mes collègues dans le Congo sont en train de faire ça, c'est pourquoi j'ai dit attention aux rumeurs. Les gens vont dire, il y a quelqu'un qui a été, on a l'habitude de mettre de l'eau chaude avec du citron, avec des lumbas, avec beaucoup d'autres choses et se couvrir dans cette histoire-là. Ça donne des dégâts, il y a des gens qui meurent. Surtout, on dit que 40% ce sont des jeunes et surtout des enfants de moins de 50. C'est dangereux. Mais je vous assure, pour l'instant, on ne va pas s'hasarder à aller chercher des antiviraux, des choses comme ça. Parce qu'on n'a pas encore pris l'agent causal. Mais la symptomatologie aide. Quelqu'un qui n'a pas reçu de médicaments contre la fièvre. Vous savez, la fièvre à la longue, ça peut entraîner des problèmes. Il y a le rhume, il y a des maux de tête, et c'est pourquoi on fait d'abord un traitement symptomatologique. Quand vous me demandez je crois que l'autre question c'était.
Elle a parlé des sujets. Oui, Madame Claudia a parlé de la prise en charge, les sujets à risque, les enfants souffrant de la malnutrition, et puis les indicateurs. Oui. Voilà.
Merci Claudia. J'ai parlé dans les indicateurs d'un bon système de surveillance, c'est la sensibilité. Regardez, notre système est très sensible. Notre système de surveillance épidémiologique, c'est pas seulement un système de surveillance comme ça, mais c'est un système prompt. c'est un système, dès qu'il y a un problème, l'alerte est donnée, on mène des investigations. Et je vous donne un exemple, Claudia. À l'époque où il y a eu le relâchement, l'épidémie d'Ebola avait commencé à Kikwit en janvier. Mais le diagnostic, quand le prof Mouyembe est arrivé, nous étions pratiquement vers le mois, je ne sais pas moi, juin ou juillet. Donc, il y a eu pendant 6 mois, le virus circulait. Regarde, Claudia, partout au Congo, dès qu'il y a un phénomène de santé insolite, tout de suite, le ministère de la Santé est informé et il y a des mesures conséquentes. Ça signifie que notre système de santé fonctionne. À cette époque-là, Claudia, je peux vous dire, il y avait à peine, peut-être dans les ressources humaines, une dizaine. Nous sommes parmi les deuxième vagues ou la troisième vague après le docteur Kalambaye qui est à l'OMS et des autres là, qui sont partis à Tulane pour être formés en santé publique. Avant, les gens disaient, faisons juste la gynéco, la chirurgie. Mais aujourd'hui, notre pays a même une école de santé publique et qui améliore la performance de notre système, non seulement pour les maladies infectieuses, Claudia, même pour les autres maladies, que ce soit les accidents de trafic routier. L'information aujourd'hui, avec les nouveaux systèmes, les DAH, les nouveaux systèmes font que aussitôt qu'il y a un problème, notre système est performant. C'est vrai. Vous allez dire, nous le comparons à qui? D'abord, c'est une comparaison interne. Nous sommes bien avancés par rapport à ce que nous étions il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes performants. Pour la prise en charge
docteur
de la
Anissé.
Malnutrition, sachez que...
Docteur Anissé, on est arrivé presque à la fin de l'émission. Alors, vous allez rappeler les précautions à prendre, les 5 doigts dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Rapidement, peut-être pour aider à certains, ceux qui nous écoutent, à pouvoir se protéger.
Merci, je vous dis. Première, vous prenez l'index ou le grand doigt là. Dites, la premier doigt, j'ai dit, pas de panique. Je sais que là-bas, comme on dit maladie inconnue, les gens vont paniquer, ils vont chercher à fuir, à s'éloigner des endroits où ils devaient avoir le soin. Ne suivez pas les rumeurs. Les rumeurs sont néfastes pour la communication, pour le changement de comportement, des comportements à risque. Pas de rumeurs. Attention, qu'on gère bien les rumeurs. Le 3, j'ai dit, en cette période, dès qu'il y a un cas déclaré, amenez-le au centre de santé le plus proche auprès de médecins. Donc, comme j'ai dit, pas de panique. Attention aux rumeurs. Suivez seulement les instructions qui viennent des autorités politico-administratives et des autorités
respect
sanitaires.
Respect des mesures barrières. 4, oui.
Oui, hygiène et respect des mesures barrières. Évitez les embrassades, parce que quand on dit que ça ressemble à la grippe, peut-être que ça se transmet par les fluges,
merci,
par les gouttelettes.
Merci, docteur. Donc, on est arrivé à la fin, merci.
Pas de manipulation des cadavres.
Pas de manipulation des cadavres, l'usage des masques. Docteur Anissé Kipassa, je rappelle que vous êtes médecin expert en santé publique, intervenant depuis la ville de Kikwit. Merci et à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.